France Inter, le 18-20.
Depuis le temps que ça vous trotte dans la tête, hein, en voyant les taux d'intérêt, vous finissez par vous dire « bah oui, il faut vraiment acheter une première fois ou revendre pour racheter ». Les taux 1,26%, 1,23% parfois sur 20 ans, ça peut descendre à 0,95%. Qui dit mieux, qui dit moins bien, surtout des émissions sur des taux très bas. On en a déjà fait, on a l'impression que ça ne remontera donc jamais. Sauf que dans le même temps, vous regardez les prix. Et là, en revanche, on n'est pas au plancher, on est plutôt au plafond, ça flambe sévèrement. Paris, qui sert d'étalon, n'a plus un arrondissement, ou quasiment plus, autour des 10 000 euros, avec des taux aussi bas. Est-ce que nous, donc, les acheteurs, avons gagné en surface au fil du temps? Et si oui, où avons-nous gagné en surface? Puisqu'on vous dit partout qu'il faut acheter, est-ce que vous avez le bon profil de l'emprunteur? Parce que c'est bien joli de nous prêter de l'argent sur 25 ans, mais est-ce que les banques le font pour tout le monde? Les auto-entrepreneurs, les start-upers, même tous ceux qui ne sont pas réellement des salariés. Bref, les taux sont bas, ça c'est vrai, les prix sont hauts aussi. Est-ce qu'on doit donc se lancer réellement? Eh bien, avant de se lancer, parlons-en et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse, le téléphone sonne.
André, c'est vous qui commencez. Bienvenue, André, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne. Moi, la question que je me poserais, c'est faut-il acheter? Faut-il louer? Faut-il acheter pour louer? Toutes ces questions sont liées au taux d'intérêt, mais sont liées aux régions. Comme vous l'avez dit, les prix sont chers à Paris. Moi, je suis dans le Morbihan, et je peux vous dire que dans le Morbihan, actuellement, au niveau des locations, j'étais tout l'après-midi avec des agents immobiliers, justement, parce que je cherchais une location, et... Actuellement, vous avez, surtout si vous voulez aller sur la côte, vous avez 10 demandes pour une offre. Je parle au niveau des locations. Au niveau du... excusez-moi.
Non, je vous en prie. On sonne à la grille du parc.
au niveau, par contre, des ventes, c'est presque l'inverse. Mm-hmm. Ça veut dire qu'actuellement... vous avez beaucoup de gens qui vendent, bon c'est lié peut-être au baby-boom, c'est lié au fait que les gens, leur pouvoir d'achat baisse, donc il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de gens, je veux dire, qui vendent, et il n'y en a pas beaucoup qui achètent. Mais je voudrais juste faire une réflexion.
Allez-y.
Sur, en tant qu'économiste, ça fait des années que j'entends, j'ai écrit même sur ce sujet, que les banques nous disent, ainsi que les agents immobiliers, Achetez, parce que vous allez voir, les taux vont remonter. Pour ça, moi, si vous voulez, je suis ça au jour le jour, tout ce qui est taux d'intérêt, tout ce qui est BCE, etc. Mais les taux n'ont pas cessé de baisser. Et vous parliez de 0,95, je pense qu'on peut même peut-être avoir 0,80. Actuellement.
Oui, nous fait signe l'une de nos invitées autour de la table. On va les poser toutes ces questions. André, merci beaucoup pour cette première intervention qui nous permet de bien voir où nous allons jusqu'à 20h ce soir et pour vous répondre, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Maëlle Bernier est là, bonsoir.
Bonsoir.
Cette porte-parole de meilleurtaux.com et bonsoir Laurent Vimon, président du groupe immobilier Century 21.
Bonsoir.
D'abord, une chose, dans la question d'André, il y a plusieurs choses. On dit effectivement que puisque les taux sont bas, c'est le moment d'acheter. Est-ce que c'est jamais très générique tout ça? Est-ce qu'on dit que c'est vrai dans la capitale? Est-ce qu'on dit que c'est vrai dans le sud, dans l'est? Est-ce qu'il y a une vraie géographie du moment d'acheter en ce moment ou pas?
Non, c'est jamais le moment d'acheter. Acheter, c'est une histoire de projet de vie. On se décide pas un matin comme ça par une partie de plaisir de dire tiens je vais acheter un logement. Ça correspond à un projet familial, c'est mettre un toit sur la tête de sa famille, certainement pas.
Certes, on est d'accord.
Tomber du lit et se dire
j'ai quelque chose. Mais acheter pour vivre d'ailleurs, même pas acheter pour investir. Donc est-ce qu'il y a en ce moment une géographie? Oui, c'est plus intéressant de le faire dans un endroit.
À Paris, c'est extrêmement coûteux parce qu'on est à plus de 10 000 euros du mètre carré. En revanche, il y a 70% des régions de France où le prix de vente moyen est à 150 000 euros et l'achat est parfaitement possible. Donc faut pas généraliser. Paris n'est pas la France.
Maëlle Bernier.
Non, tout à fait. En fait, c'est vrai, on a les grandes villes, on a Paris et Bordeaux, mais partout ailleurs...
Ah, Bordeaux est plus cher.
Bordeaux, c'est très cher.
Bordeaux,
c'est
la première ville hors de Paris.
Après Paris, okay. Tout à fait cher. Partout ailleurs, je dirais que je parle des, quand je dis pas tout ailleurs, je parle des autres grandes villes, ouais, et des villes moyennes. Mm-hmm. Le marché est assez sain, avec des prix de l'immobilier qui sont plutôt inférieurs à 3 000 euros et des emprunteurs qui bénéficient des mêmes taux qu'à Paris, mm-hmm, c'est-à-dire avec effectivement, je confirme ce que disait monsieur, vous avez des gens aujourd'hui qui passent à 0,80 sur 20 ans, on a des dossiers à 1% sur 25 ans et pas forcément des dossiers de milliardaires, hein. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui ont effectivement des revenus moyens un peu plus supérieurs et surtout qui ont un peu d'épargne disponible, mais globalement aujourd'hui les taux sont compris dans une fourchette entre 0,80 et 1,35, 1,40 quoi, sur 20, sur 25 ans.
Et il a raison André, parce que des émissions comme celle-là effectivement on en a déjà fait parce que les taux étaient bas et on se disait mais ça va descendre jusqu'à quand, et à chaque fois on nous dit ben ça finira bien par s'arrêter, puis on a l'impression que ça s'arrête jamais, on va finir dans le négatif.
C'est peut-être pas fini hein, parce que nous on a des banques, les barèmes reçus en juin sont à nouveau en baisse. Il y a des établissements qui tirent vraiment le marché vers le bas. C'est le seul moyen pour conquérir un client. Mmh. Et aujourd'hui, surtout, on a des taux directeurs qui se sont effondrés. C'est pour ça que les banques baissent. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est parce que vous avez des OAT qui ont chuté au mois de juin. Là, on est au 0,12 aujourd'hui sur l'OAT 10 ans.
Ça veut dire quoi 0,12
servent de référence.
Pardon, ça veut dire quoi 0,12 sur l'OAT 10 ans.
Ça veut dire en gros le taux auquel les banques vont emprunter. Et il était à 0,50 il y a encore, ou 0,80 il y a encore 2-3 mois. Donc c'est pour ça que les banques baissent. Elles répercutent cette baisse.
Il faut peut-être revenir sur un point important, c'est qu'on n'a toujours pas retrouvé les niveaux de prix qu'on a connus en 2010-2011 qui étaient les plus élevés. Mmh. Et que, encore une fois, on prend toujours Paris ou Bordeaux en exemple, c'est peut-être 10% du marché et encore, le vrai marché, il n'est pas là. On n'est toujours pas au niveau de ce qu'on a connu au plus en 2010-2011 et donc il y a encore une marge de progression alors qu'à l'époque, les taux étaient à 4,5%. Les taux bas, ils ont deux conséquences. La première, ils rendent les gens plus riches virtuellement. Je prends un chiffre, quand vous prenez les taux à 4%, pour 1 000 euros de mensualité, la banque vous prête environ 170 000 euros. Vous prenez ces mêmes 1 000 euros de mensualité avec les taux à 1,5%, la banque vous prête 210 000 euros. Donc vous avez 40 000 euros de pouvoir d'achat en plus. Et la deuxième conséquence, c'est que ça augmente le nombre de gens solvables. Parce que pour un prix de vente moyen à 150 000 euros, il suffit de 700 euros de mensualité, là où il fallait 1 000 euros avant. Donc la conséquence, c'est que vous avez une offre qui est importante et en face, une offre qui est en restriction et une demande qui est importante, ça pèse sur le marché, mais on n'est pas sur des prix qui sont les plus élevés de ce qu'on a connu en France, dans Paris.
Du coup, vous avez répondu en partie à une question de Charlotte qui n'est pas à Paris mais qui est à Montpellier et qui nous dit les prix ne pourront pas monter indéfiniment et donc s'ils baissent, est-ce qu'investir dans un appartement maintenant est vraiment une bonne idée, est vraiment intéressant?
Encore une fois, on n'achète pas pour faire une opération de rentrée-sortie. Les gens qui achètent, achètent pour se faire un patrimoine avec de l'épargne forcée. Et quand on achète un logement ou pour habiter ou pour mettre en location, on l'achète en remboursant un crédit. Et ce crédit, c'est de l'épargne qu'on n'a pas mis de côté. Et puis à la fin du remboursement du crédit, vous avez un patrimoine qui a été remboursé et puis des loyers en face. Donc c'est une opération financière saine. C'est la seule opération financière où on peut emprunter pour s'enrichir.
Mais le Bernier.
J'ajouterais que en fait aujourd'hui il y a cette notion de prix, mais effectivement la notion de taux on peut pas faire sans. Quand vous empruntez aujourd'hui à 1% avec une inflation qui est autour de 1,80, vous avez mécaniquement en faveur de l'emprunt quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait vous allez graver dans le marbre un emprunt qui va peut-être pas durer 20 ans parce qu'effectivement des gens vont revendre au bout de 5 6 ans, 7 ans. Mais vous avez emprunté à 1%, donc vous gravez le coût de l'argent très faible. Donc moi, je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord avec M. Vimon, c'est-à-dire qu'on achète parce qu'on a un projet de vie. On achète parce qu'on va avoir un enfant, parce qu'on se marie. Et à contrario, on vend parce qu'on a un autre projet de vie ou subit, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villes de France moyennes, mais même des villes que j'appelle des villes TGV, Lille, Reims, Le Mans, qui sont autour de Paris, à une heure en TGV, vous avez des prix de mètre carré à 3000 euros, à moins de 3000 euros, avec des gens qui peuvent se loger, en gagnant 2500 euros, vous achetez 80 mètres carrés sans problème. Donc voilà pourquoi le marché aujourd'hui est dynamique, c'est parce que on a une année à 950 000 transactions, voire un peu plus, c'est parce que justement, il y a des gens qui sont arrivés sur le marché, qui n'étaient pas sur le marché il y a 4-5 ans parce qu'ils ne pouvaient pas.
Est-ce qu'on est toujours dans l'idée qu'on achète de plus en plus tôt parce que les taux sont importants? Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que l'âge moyen de l'achat est autour de 33 ans. Mmh. Et 33 ans, ça me paraît être un âge qui est assez stable finalement par rapport à ce que ça a toujours été. Donc on n'achète pas particulièrement avant, même si les taux sont aussi bas.
En revanche, il y a un intérêt grandissant des moins de 30 ans qui me frappe à chaque fois qu'on regarde, ça va être pareil chez vous, quand on voit les chiffres, nous, sur notre site, on voit arriver des gens qui ont moins de 30 ans et qui font des demandes de prêts, alors que la génération qui est aujourd'hui 40-45 ans, a en général 25-26 ans, ne pensait pas forcément à acheter. Donc il y a une vraie volonté, y compris des jeunes, pourtant qu'on dit zappeurs et pas du tout stable, d'acheter, parce qu'ils ont bien compris quand même que il y avait un truc qui se passait et que c'était peut-être pas, ce serait peut-être dommage de pas jouer.
Laurent Vimon.
Il faut se méfier des moyennes. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on achète plus vieux. Et donc, ça augmente en moyenne d'âge. Parce qu'on emprunte plus vieux. Et il y a 20 ou 25 ans, on pouvait pas emprunter de l'argent. À 60 ans, aujourd'hui, on peut. Et la moyenne a bougé parce qu'on a déporté une partie de la clientèle sur des retraités qui peuvent refinancer une opération et emprunter à nouveau. Concernant les jeunes, moi, j'ai pas observé qu'il y avait plus de jeunes qu'avant qui se portaient l'acquisition. Acheter, encore une fois, ça reste un projet personnel, familial, et c'est une façon aussi de se préserver de l'avenir. Je me promène souvent dans les agences en province et je rencontre des acheteurs jeunes à qui je demande pourquoi vous achetez. Ils m'expliquent qu'en fait, ils ont compris qu'une banque ne prête de l'argent qu'à celui qui a un emploi. Et qu'il faut valoriser l'emploi, ce qui est pas bête comme raisonnement.
Oui, sauf qu'il faut avoir un emploi à moins de 26 ans, pardon.
Oui, mais c'est pas le cas tout le monde. Et que surtout, ils ont un loyer à payer. Et que même en cas d'incident de vie, en tant qu'emprunteur, ils préfèrent dépendre d'un banquier que d'un bailleur, parce que avec un banquier, on peut négocier l'échelonnement de son prêt, ce qui est beaucoup plus compliqué avec un bailleur. Et que acheter, encore une fois, c'est un réflexe gaulois. C'est l'achat de bon père de famille, et on considère qu'être chez soi, c'est une sécurité.
Il y a beaucoup de questions qui vont dans l'autre sens, justement, et qui se posent la question de savoir si les banques prêtent aussi facilement qu'elle ne le faisait, précisément parce que les carrières ont changé. On est en CDD beaucoup, beaucoup plus tardivement aujourd'hui. On est facilement auto-entrepreneur. Enfin, et les banques aiment bien la sécurité. Donc, si vous êtes salarié et que vous arrivez en disant « moi, je vais travailler dans cette boîte jusqu'à la fin de ma vie », c'est facile. Si vous êtes autre chose, c'est beaucoup plus difficile. Or, désormais, tout le monde est autre chose, en
Effectivement, le CDI, c'est un passeport parfait. Sauf que, voilà. Néanmoins, mais vous avez raison de poser la question. Je dirais que le pire des contrats, c'est le CDD, parce que le CDD, il a une durée de fin et il ne sera pas forcément transformé. Vous parliez tout à l'heure des auto-entrepreneurs. En revanche, ce n'est pas du tout pareil. S'il justifie d'un peu d'ancienneté, il ne faut pas s'être lancé un mois avant, mais si vous avez 1-2 ans de bilan aujourd'hui et qu'en plus vous êtes en couple avec, par exemple, quelqu'un qui est en CDI, ça passera. Tout est une question de foyer. Bon, évidemment, un CDD tout seul, et à la limite, je dirais, ce serait peut-être criminel de lui prêter parce que quelqu'un tout seul en CDD, c'est hyper dangereux si dans 2 mois après, il n'a plus de job. Mais on garde un foyer, donc en général, on peut acheter un ou deux, mais c'est pas rédhibitoire. L'auto-entrepreneur, le pigiste, enfin toutes ces professions un peu différentes.
C'est pas rédhibitoire, mais c'est honnêtement beaucoup plus compliqué.
Oui, mais aujourd'hui, ça, je dirais que c'est quand même un peu plus facile parce que ils sont moins regardants sur l'apport.
Et qu'est-ce que alors voilà.
Et, alors cette histoire d'apport est quand même un peu joue un peu quand même en faveur des plus jeunes.
Alors deux choses. On peut effectivement acheter sans apport aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre.
Ça peut passer si l'endettement est raisonnable.
Qu'est-ce qui se passe du taux de l'assurance? Si j'arrive, non mais attendez, parce que moi je veux bien emprunter à 0,80, mais si derrière j'ai une assurance qui me fait péter les prix, pardon de le dire comme ça.
Elle n'est pas plus chère que vous empruntiez à 3,5 ou à 1% de taux d'intérêt ou à 0,80. L'assurance, c'est lié à un risque, c'est plus vous êtes jeune, moins vous avez payé cher, plus vous êtes âgé et avec une santé fragile, plus ce sera cher. En gros, c'est à peu près ça, parce qu'on assure un risque. Maintenant, effectivement, mais il y a pas les assurances sont pas augmenter parce que les taux ont baissé.
Eh ben justement, c'est le sens de la question de Francisco. Je vous ai un peu mangé votre question, Francisco. Pardon, on vous écoute.
Oui, mais j'ai pas eu de réponse, ne vous inquiétez pas.
Ah bah donc, reposez-la, je vous en prie, allez-y.
Donc, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir. Non, plus bonsoir. Une question, c'est un témoignage, parce qu'effectivement, moi j'ai 55 ans, j'ai souscrit avec mon épouse un emprunt sur 20 ans pour acquérir notre résidence principale. Donc, on a eu un taux intéressant à 25 il y a 2 ans. Mais la surprise a été de voir le montant de l'assurance emprunteur qui, au cumulé, s'élève à plus que les intérêts de l'emprunt. Donc, effectivement, on peut dire que les taux d'emprunt ont baissé, c'est un fait. Mais on nous dit d'un côté qu'à 55 ans, on est à la fleur à force de l'âge et on a la vie devant soi, mais c'est pas la vie des assureurs. Donc voilà. Donc la boucle est bouclée. On paye toujours aussi cher l'accès à la propriété.
Merci beaucoup, Francisco. Laurent Vimon, et c'est vrai, quand on a passé, on va dire, la date fatidique, on est passé du mauvais côté de la ménagère, c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter. Oui
non.
ou non
C'est pas plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué.
En fait, ça dépend aussi de ce que vous incarnez en termes de risque. Si vous avez été fumeur ou non, votre taux de PSA, votre taux de cholestérol, il y a un ensemble de paramètres qui vont impacter fortement le montant de l'assurance. Mmh. Et puis, la nouvelle qu'il faut peut-être révéler, c'est que l'assurance, on peut en changer maintenant.
Ah ben, il faut la négocier même.
Oui. On peut demander à son banquier en cours de remboursement, en cours de crédit, au bout d'un an, deux ans, trois ans, de changer l'assurance et de trouver une assurance à garantie équivalente. Mmh. Les banquiers ont horreur du risque, donc s'assure au maximum, et je conseille à cet auditeur peut-être de trouver d'autres solutions d'assurance avec des coûts qui sont moins élevés. Ceci étant, il faut relativiser. L'assurance a toujours représenté entre 1,5% du montant du crédit. Il vaut mieux emprunter avec un taux à 1,25 et une assurance à 1,30 qu'emprunter à 4% avec une assurance à 1,50.
Bah, c'est sûr.
Au global, c'est plus intéressant. On peut pas forcément toujours tout avoir. Ceci étant, je lui conseille de voir ce qu'il y a comme autre dispositif et de voir comment il peut peut-être équilibrer son risque et ne pas dépendre uniquement de l'assurance de la banque qui lui a prêté l'argent.
Est-ce qu'elles sont moins regardantes, Maëlle Bernier, les assurances? Enfin, on sait quand on a été malade, c'est extrêmement compliqué. Même si c'était il y a très longtemps, tout ça n'a pas beaucoup bougé.
Alors,
quand même.
Malheureusement, j'adorerais vous dire que c'est mieux. C'est pas le cas. On sait très bien qu'il y a, ces espèces de paliers de 10 ans pour être considéré comme guéri. Droit à l'oubli. Les gens qui ont eu des maladies. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un peu mieux pour les gens qui ont été malades pendant leur enfance et qui sont guéris, mais en fait, depuis 10 ans. De toute façon, quand vous faites un prêt, c'est le check-up complet. Hein. Enfin, plus vous empruntez, plus le check-up va être complet. Si vous empruntez 100 000 euros, j'ai envie de dire que ça passera, parce qu'évidemment, on parlait de risque tout à l'heure, ça passera assez doucement.
Parce que vous aurez remboursé vite, mais
voilà.
Si vous empruntez
400 000 euros, qu'en plus, il y en a, vous savez, les assurances, on les met, c'est sur chaque tête. Donc, s'il y en a un des deux qui a un gros salaire, l'autre un plus petit, on va assurer à fond celui qui a un gros salaire, et celui-là, il va se taper le check-up complet. Mais même à 40 ans, hein, moi, je connais des gens très bien et autour de ce plateau qui ont emprunté à 40 ans et qui ont eu un check-up complet parce que, voilà, la somme est importante. Voilà, c'est l'enjeu du risque.
Arnaud, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Bienvenue Arnaud, on vous écoute.
Oui, hein, vous parliez tout à l'heure, désolé, je reviendrai un petit peu en arrière, des prix à Paris et dans les grandes villes en général, mais c'est aussi vrai dans les zones frontalières par exemple. Moi j'habite en Savoie, Haute-Savoie. J'ai 40 ans, célibataire, sans enfant, ancien fumeur, etc., etc. Aujourd'hui, je peux pas emprunter pour acheter, c'est impossible.
Mais est-ce qu'on a le droit de demander à quelqu'un, est-ce que vous êtes fumeur? Non, mais sérieusement, on a le droit de lui demander s'il est fumeur?
Alors la preuve, oui, je suis en train de fumer une clope.
Vous avez tellement de chance, profitez-en.
Mais moi, ça m'hallucine un petit peu.
Je plaisante, pour les gens qui nous écoutent, pardon, parce qu'on va encore recevoir du courrier, ça va être horrible.
Je comprends. Non, ça me fait rebondir un peu d'ailleurs sur ce que disait votre invité juste à l'instant. Moi, ça me fait un peu peur avec les dossiers médicaux parce que ça fait 20 ans que je fume, etc., etc. À partir du moment où peut-être les assureurs vont avoir accès à ces dossiers médicaux, ça va rendre les choses encore plus compliquées pour emprunter, quoi.
Non, plus cher.
Un peu plus cher. J'ai un cas très précis de quelqu'un qui a autour de 40 ans et qui s'est déclaré fumeuse en l'occurrence.
Mais c'est fou parce que moi j'ai acheté il y a quelques années, j'ai absolument pas parlé de ces choses-là.
Sur le questionnaire de santé, on vous demande à un moment donné, est-ce que vous êtes fumeur ou non fumeur? Ne mentez pas, ne dites pas que vous êtes non fumeur si vous êtes fumeur, parce que franchement, si jamais vous avez un pépin derrière, l'assurance c'est quand même une super couverture. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, parce que si vous déclarez non fumeur et que vous développez une pathologie liée au tabac. Ouais,
mais alors, par exemple, j'ai arrêté depuis un an et demi.
C'est deux ans sans une clope.
Il vous reste six mois à tenir. Vous tenez le bon bout.
C'est deux ans sans une photo avec une cigarette. Hein. Pas un soir de réveillon, quoi.
Ce qui est quand même assez fou quand on réfléchit bien. L'exemple d'Arnaud est très criant pour ça et très parlant pour ça.
Mais il a 40 ans. Franchement, s'il est juste fumeur, d'après ce que je comprends, c'est plus la problématique des prix dans la zone frontalière que la problématique du prêt qui est un problème. Heureusement, on peut emprunter à 40 ans même quand on fume une cigarette, quoi.
Eh ben écoutez, je suis assez espantée quand même par ce que j'entends, notamment sur ce genre de questions dont j'ai le sentiment, est-ce qu'elles sont neuves ces questions-là sur
sur la cigarette?
Parce que l'état de santé général, le cancer avant, on a une question aussi sur la mucoviscidose, pareil, effectivement, autant de choses qui sont extrêmement compliquées. Mais l'hygiène de vie, on va bientôt nous demander si on mange de la viande ou pas.
En fait, vous avez une partie déclarative qui permet d'évaluer le candidat que vous êtes, et puis, en fonction de l'âge et des montants, vous avez une partie d'examen qui vont révéler un ensemble de pathologies potentielles ou pas, et qui vont définir ensuite le niveau de la prime d'assurance. C'est-à-dire que c'est pas que vous pourrez pas emprunter, c'est que vous emprunterez avec un niveau risque qui est plus élevé, le cholestérol par exemple. Mais enfin, c'est pas bien ce que je vais dire, mais quand on a un peu de cholestérol, on peut se mettre au régime 15 jours, 3 semaines et le taux d'assurance baissera. Parce que le taux baissera.
Le donc tout,
toute la banque et tout l'assureur, lui, il évalue le risque et il dit voilà, ce profil-là a un profil à risque d'accident cardiovasculaire à 75%, donc je monte un peu la prime. C'est une espèce d'algorithme qui définit le montant de la prime finale. Ce qu'il faut, c'est pas mentir et peut-être aussi se préparer à emprunter quand on est un peu plus âgé, se dire bah à 50 ans, si je remprunte quelque chose pendant 2 ans, je fais attention à ma consommation de cigarettes.
J'ai pas oublié qu'il y avait une deuxième partie dans la question d'Arnaud sur la zone frontalière. Est-ce qu'on est dans des endroits effectivement qui sont très spécifiques en termes de mobilier quand on est en zone frontalière?
Tout à fait. Oui, la zone entre autres entre la Suisse et la France est une zone dont les prix ont explosé. Ferney, Voltaire et tout ce secteur-là, c'est extrêmement élevé. Oui.
Yolande, bonsoir.
Oui, bonsoir. Mais en fait, d'une part, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas mentir au questionnaire de santé. Je n'ai pas menti. J'ai déclaré mon état de santé. J'ai été suivie et guérie désormais. Mais ça n'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est ma déclaration initiale.
Donc ça veut dire que vous avez payé plus cher, vous?
Je paye toujours plus cher. Et je ne peux pas changer d'assurance emprunteur.
Si,
vous pouvez changer vous pouvez. Tous les ans.
Je peux peut-être changer, mais il faut trouver une assurance qui veut bien ne pas tenir compte de la déclaration de l'assureur précédent.
Vous savez quoi?
On fait des examens.
Il faut refaire les examens.
Je parle d'une réalité, là. D'autre part, j'appelais pas pour ça. J'appelais simplement parce que je voulais savoir combien de fois, s'il y avait un nombre de fois délimité, on pouvait demander une renégociation de prêt.
C'est pas limité.
C'est illimité.
Ça veut dire qu'on peut le faire tous les ans, sérieusement?
Non, honnêtement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui renégocient pour la deuxième fois, voire la troisième fois, parce qu'ils ont fait leur prêt en 2014, ils ont renégocié en 2016, et là, ils vont renégocier en 2019. À chaque fois, ils ont un capital emprunté qui a baissé, la durée aussi, donc ils repartent sur une durée plus courte. Donc oui, on peut en négocier. Alors après, si la question est-ce que votre banquier va vous accueillir à bras ouverts si vous arrivez pour la deuxième fois pour renégocier, c'est pas du tout sûr, même la première, parce que de toute façon, la banque, quand elle vous a prêté, elle a elle-même emprunté à un taux plus élevé. Donc c'est pas que le banquier veut pas faire, c'est que...
C'est que ça l'arrange pas.
C'est que ça l'arrange pas beaucoup.
Excusez-moi.
C'est pour ça que beaucoup de gens passent à la concurrence en ce moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, nous, les courtiers, des dossiers qui arrivent de gens qui changent de banque et qui renégocient. En fait, ils font racheter leur crédit par une banque concurrente. Et ça, à partir du moment où vous êtes accepté par une nouvelle banque, vous êtes un nouveau client. Il n'y a aucune limite au nombre de renégociations.
Est-ce que c'est maintenant que les taux effectivement se cassent vraiment la figure et sont très bas, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus régulièrement? Parce que je pense surtout à la première partie de votre réponse. Est-ce que les banques rechignent à renégocier? Est-ce qu'il faut y aller à la menace en disant vous êtes gentil mais j'irai chez le concurrent?
Nous on est courtiers, donc nous on les voit arriver après. En général ils ont été voir leur banquier et aujourd'hui ces gens-là, ça représente chez nous un bon gros tiers des dossiers déposés tous les jours.
Allez-y, monsieur.
Ce qu'il faut mesurer aussi, c'est l'intérêt de renégocier. Parce que renégocier, ça a un coût.
Vous remboursez une partie de
pénalité au banquier initial. Et le calcul, il se fait sur la base du capital restendu, qui doit être important, et de la durée de remboursement. Et de l'écart qu'il y a entre votre taux initial et le nouveau taux. Si vous avez emprunté à 2% ou 2,5%, qu'il vous reste 100 000 euros à rembourser sur 7 ans, c'est même pas la peine d'en négocier un crédit. Ça coûtera plus cher de le renégocier. Donc, il faut pas tomber dans l'obsession de la renégociation. Il faut qu'il y ait un intérêt financier et il faut comparer ce que je vais gagner et ce que je vais payer. Si le différentiel est positif, il faut y aller. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
C'est une question de somme ou une question de temps?
C'est-à-dire il y a les deux. Il y a le capital restendu, il y a les cartes taux. Enfin, aujourd'hui, quand même, nous, quand je vous parlais d'un tiers des dossiers, c'est un tiers des dossiers qui ont un gain compris entre 15 et 25 000 euros. Je ne vous parle pas de ceux auxquels on dit non, il ne faut pas le faire, ça ne sert à rien. Donc oui, il y a quand même un intérêt.
Claudine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Claudine.
Oui, bonsoir, merci pour votre émission. Alors voilà, il y a 12 ans, donc en 2007, mon mari et moi avons décidé du jour au lendemain, malgré ce que disait monsieur tout à l'heure, de faire l'acquisition d'une maison. Et nous l'avons trouvée très rapidement, à peu près, c'était la troisième maison que nous visitions. Et nous avons eu un coup de cœur et nous nous sommes adressés donc à ma banque. Je suis fonctionnaire, mon mari à l'époque était intermittent du spectacle et gagnait très bien sa vie. Et je me suis adressée au Crédit Agricole. Et nous avons eu la mauvaise surprise d'avoir comme réponse un prêt sur 15 ans avec des mensualités vraiment très très importantes. Donc, nous avons été vraiment choqués par la réaction de mon banquier. Et nous nous sommes adressés à meilleurtaux.com. Mmh. Et nous avons enfin...
Elle est contente, Maëlle Bernier.
Ah oui.
Ça dépend.
Je remercie vraiment toutes les personnes qui travaillent dans cette société. Parce que nous sommes tombés sur des professionnels qui ont fait vraiment tout ce qui est dans leur pouvoir pour nous dégoter un prêt dans une banque étrangère.
Ouais, alors je vois effectivement que c'est une banque étrangère. Est-ce que ça veut dire que rapidement ils ont su vous y emmener, une banque anglaise? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres Barclays. Banques françaises qui ont... C'était Barclays ou pas, Claudine?
C'était la Jimmy Bank.
D'accord.
Ah oui, mais c'est
Et donc, mais est-ce que ça veut dire qu'on vous avez essayé ou le courtier pour vous a essayé toutes les autres banques françaises et ça a pas marché, c'est l'idée?
C'est ça.
Wow.
Moi, je pense. Non, alors, Jimoney Bank, c'est une typologie du client qui répond à un besoin, donc c'est pas étonnant. Enfin, c'est une banque qui existe. Il y a pas de. En fait, c'est que Madame, enfin, le projet de des personnes en question correspondait à la typologie client recherchée par Jimoney Bank. Jimoney Bank était en France et ça. Voilà, c'était.
Mais est-ce que ça veut dire que les certaines banques étrangères qui sont chez nous, tout ça, tout à fait légalement, sont moins frileuses? Parce que ce que dit Claudine Encreux, c'est que il faut des garanties, semble-t-il, dans certaines banques qui sont beaucoup trop élevées par rapport.
Non, mais je comprends parce que là. On est dans, à mon avis, quelque chose d'un endettement un peu spécial, mais toutes les banques françaises sont pas plus frileuses. Les banques, en général, elles ont des objectifs à l'année. Vous tombez à un moment donné, vous avez des banques qui recherchent plus tel ou tel profil. Madame est fonctionnaire, son mari est intermittent, c'est le monsieur qui avait des gros revenus. Enfin, voilà, effectivement, peut-être qu'une banque classique, à l'époque, on parle de 2007, s'est pas engagée. Elle a tout de suite trouvé un financement. Je suis ravie que ce soit passé par Meilleurtaux. Ça aurait pu être n'importe quel autre courtier. L'idée, c'est que voilà, justement, il faut comparer. C'est ça. Ça veut dire justement ce qui illustre Madame, c'est que on peut aller voir sa banque, on peut être super bien avec sa banque, et le jour où on a un projet, on dit bah non, vous êtes pas terrible dans les cases, et donc il faut aller voir ailleurs.
Et donc il faut partir, y compris donc dans une pour banque étrangère qui fonctionne exactement de la même manière. Ce qui revient un peu, pardon Monsieur Vimon, j'ai vu que vous vouliez intervenir à cette question sur franceinter.fr qui revient sur ce qu'on a déjà évoqué et qui est un petit peu le cas de Claudine aussi peut-être, que comment quelqu'un qui n'a pas de contrat de travail régulier peut-il justifier de revenus suffisants pour solliciter un prêt immobilier? Là en l'occurrence, Monsieur est intermittent, même s'il gagne très bien sa vie. Quand on est, y compris auto-entrepreneur, etc., c'est la régularité varie.
C'est une question de passé, une question de bilan, une question d'imposition, une question de déclaration d'impôt. Quand vous arrivez à justifier régulièrement d'un niveau de revenu, le banquier s'intéresse à vous. Alors, quand c'est votre banquier, c'est plus facile pour lui. Quand il est différent, c'est sûrement différent. Il faut pas dire que les banques françaises ne prêtent pas à des clients qui ont des revenus qui sont non réguliers, mais le banquier regarde le passé. Et si dans le passé, il considère que votre revenu régulier, intermittent ou pas, il prêtera de l'argent. Je rappelle juste une chose sur les CDD, ce que vous évoquez, c'est qu'en France, il y a 6 millions de fonctionnaires qui accèdent facilement au crédit parce qu'ils n'ont pas de problème de perte d'emploi et que ces fonctionnaires sont une partie importante de la population, les classes moyennes qui ont de plus en plus de mal à acheter dans les hypercentres et dans les grandes villes parce que les prix ont trop monté, mais que l'accès au crédit en France, il a jamais était aussi facile et aussi simple.
Il y a autre chose que je voudrais souligner dans la question de Claudine. Est-ce qu'elle a fait les choses à l'envers? Parce qu'on a tous une idée à peu près précise ou pas d'ailleurs de ce que nous pouvons emprunter.
Elle a pas fait le calcul d'enveloppe, c'est ça.
Elle, pauvrette. Enfin, est-ce qu'il aurait fallu aller voir la banque d'abord?
L'agence peut le faire en général.
Lui disant voilà votre max d'emprunt.
Non, parce qu'il lui aurait peut-être dit non. Il aurait peut-être dit non, madame, vous pouvez pas emprunter. Donc après, quand on fait l'achat immobilier, on a envie aussi de visiter des maisons, on a envie de regarder, on a envie d'avoir un coup de cœur.
Évidemment,
il y a un peu d'affect quand même. On n'est pas obligé d'être.
Et puis l'agent immobilier,
il y a surtout de l'affect quand on achète un appartement, quand on s'en donne pour 25 ans.
Et l'agent immobilier en général fait une découverte financière, un plan de financement, et ne vous montre que des biens correspondants. Il n'a pas intérêt de vous emmener en visite sans avoir validé le montant de votre enveloppe financière.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
On vous écoute, Frédéric.
Alors voilà, moi j'ai fait un achat sur un bien immobilier de 111 000 euros. Enfin, c'est pour venir un peu en contredire les propos des personnes que vous avez sur votre plateau. Mm-hmm. Donc j'ai fait un achat de 111 000 euros. Quand on dit que, soi-disant, ça va rapporter la pierre, etc., à l'heure actuelle, mon achat ne vaut que 58 000 euros hors frais d'agence. Il a été acheté dans le Nord, dans le cadre d'une défiscalisation. Certes, je suis fonctionnaire, j'ai été fonctionnaire et maintenant retraité. Et mes revenus me permettent à l'heure actuelle tout juste de financer cet appartement où j'ai des mensualités qui sont très très élevées. Et de fait, j'ai demandé à la banque de pouvoir réétudier mon prêt. Ça m'a été refusé, mais catégoriquement, mais vraiment catégoriquement. De là, je me suis penché vers d'autres banques pour essayer de renégocier mon prêt. Mais comme j'ai pris de l'âge et que je suis à la retraite et que j'ai un peu perdu par rapport à mes revenus précédents, à l'heure actuelle, si je renégocie mon prêt, je vais gagner tout juste 50 euros. Et pas grand-chose, quoi. Voilà.
Où est-ce qu'il est votre appartement, Frédéric, celui qui a perdu autant de valeur?
Il se situe dans le Nord, sur Valenciennes.
Mmh. Et c'était un appartement acheté à l'époque pour investissement, donc j'imagine.
Pour investissement, d'accord. Voilà, sur 111 000 euros, avec alors que la pierre ne valait que 80 000 euros à l'époque. Que tous les mois, je suis obligé de sortir l'équivalent de 700 euros par mois, sans compter les frais de syndic, les frais de ci, les frais de ça, etc. Et le loyer, lui, par contre, il n'a pas évolué. Alors tant mieux pour le locataire, hein, ça c'est un fait. Mais par contre, les négociations avec la banque sont impossibles. La perte sèche sur le prix de la pierre, elle est réelle et existante. Et les renégociations, tant bien même maintenant, il me resterait un peu moins de 6 ans à renégocier mon prêt, je serai toujours à payer 675 euros de remboursement mensuel.
Merci beaucoup Frédéric. Je voudrais ajouter la question de Nadège qui dit: j'habite en province, une petite ville de 10 000 habitants. Aujourd'hui, la maison, l'appartement, je ne sais pas, vaut 3 fois moins cher que le prix auquel nous l'avons acheté. Et ça, c'est une sacrée déconvenue quand même. Et quand on entend partout, effectivement, à la place de Frédéric ou Nadège, que les prix de l'immobilier grimpent, c'est pas toujours le cas non plus.
C'est ce que j'ai dans l'introduction, c'est qu'il faut pas confondre Paris et le reste de la France. Il y a eu des corrections, on n'a toujours pas retrouvé les prix de 2010-2011. Il y a des régions où les prix ont baissé, ont corrigé. Je pense que l'auditeur précédent a dû acheter avec un avantage fiscal, qu'il a déduit de ses impôts, qu'il perçoit un loyer et que l'écart entre le crédit, le remboursement et le loyer n'a pas dû bouger beaucoup, puisque le loyer n'a pas bougé, et qu'il dit « je vais perdre ». Il perdra le jour où il vendra. Tant qu'il n'a pas vendu, il n'a pas perdu. Et puis, l'autre élément, c'est que même si l'appartement est moins à un prix d'estimation moins élevé, il n'est pas encore vendu, il aura mis de côté un peu d'argent qu'il n'aurait pas mis de côté forcément. Après, sur votre auditrice qui dit ça vaut 3 fois moins cher, je voudrais bien savoir combien elle a acheté, où elle a acheté, et comment, parce que je ne connais pas en France
alors
de région.
Alors, aléatoire, là, et du coup, je ne sais pas où elle a acheté exactement, en effet. Je peux
Tours,
pas vous
dans
dire.
Les Yvelines.
Je peux pas répondre à votre question.
Ouais. Mais je ne connais pas d'exemple d'un logement qui vaille 3 fois moins cher que le prix d'achat.
Eh ben écoutez Nadège, si vous nous entendez toujours, éventuellement donner 2-3 précisions, on a ce message sur franceinter.fr qui dit: j'ai emprunté de l'argent pour acheter ma résidence principale moins de 5 ans après avoir eu un cancer et j'ai opté pour un prêt sans assurance parce que les taux étaient prohibitifs. Il faut être sûr de soi, mais c'est possible.
Si la personne a opté d'emprunter pour un prêt sans assurance, ça veut dire que la banque a dû prendre une garantie quelque part. Ça veut dire que cette personne devait, à mon avis, disposer d'une somme assez élevée en face, placée sur un contrat d'assurance vie ou sur un autre produit. La banque, elle ne prête pas sans garantie. Et quand j'ai garantie, c'est ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'il y a la prise de garantie en cas de défaillance sur le bien, en cas de défaillance de la personne qui rembourse le crédit, et il y a la garantie, donc assurance emprunteur, en cas de problème de santé.
Mais du coup, ça veut dire quoi un prêt sans assurance?
Ça veut dire que cette personne avait, à mon avis, l'équivalent de la somme empruntée en cash disponible et qu'elle l'a nanti sur un contrat d'assurance vie ou autre. Donc en fait, la banque avait quand même une garantie. Elle n'a pas pris l'assurance emprunteur en tant que telle.
D'accord. Monsieur Vimon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Pas du tout.
Désolé. Nous avons 30 et 33 ans salariés CDI, nous avons 17 000 euros d'apport pour emprunter 57 000 euros. Nous avons eu 3 refus de prêt de plusieurs banques. Nous n'avons reçu aucune explication pour ces refus. Pourquoi n'y a-t-il pas d'obligation de justifier un refus pour les banques? Faut-il se justifier, quel que soit le cas en fait? De toute façon, est-ce qu'une banque doit expliquer pourquoi elle refuse?
Non.
Elle n'est pas obligée de le faire du tout?
Non.
C'est curieux en vrai.
Mais là, c'est curieux là.
Faut appeler Meilleur Taux.
Non mais 17 000 euros l'apport, 57 000 euros. On n'a pas. Enfin, c'est curieux. Il y a un problème sur les comptes. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est
deux personnes qui sont en CDI, l'un comme l'autre visiblement.
Ouais, ça ferait 40 000 euros d'emprunt.
40 000 euros d'emprunt. On est à peine dans un prêt immobilier. Hein. Ouais. Parce qu'un prêt immobilier, c'est plutôt 75 000 euros. Mais quand même.
Est-ce qu'aujourd'hui, on achète aussi facilement, aussi rapidement, pardon, c'était ça le sens de ma question, aussi rapidement qu'on achetait autrefois? Il y a eu une période où il fallait rentrer, il fallait même faire une promesse d'achat, pour quitte à se dédire dans la semaine qui suit, puisqu'on a le droit de se dédire dans les jours qui suivent. Est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui qu'on achète un bien?
Et
comme vous disiez, monsieur Villon, effectivement, c'est une histoire d'emprunt sur toute une vie. Quand on se met d'accord en deux heures, poum, même pas d'ailleurs, c'est un peu raide.
L'immobilier, c'est une histoire de sentiments, de coups de cœur. Et avant de trouver son logement, il faut en voir plusieurs dizaines parfois. Quand on a raté parce qu'on a trop réfléchi celui qui vous plaisait, le coup d'après, on est plus réactif. Mmh. Et puis, une fois qu'on l'a visité, rien ne va changer. Mmh. Si le financement est bon, il faut y aller. En revanche, ce que je peux dire, c'est que dans Paris, là où les agences ont entre 5 et 7 mandats en stock, quand vous trouvez le bien qui vous convient, je vous conseille de pas forcément trop attendre et de vous engager sur le logement. Il y a des conditions suspensives et puis il y a un délai de rétractation. Mmh. En province, où les agences sont 25, 30, 35, 40 mandats, on peut prendre plus de temps. Mais quand vous trouvez, c'est un peu comme son mari ou sa femme, la personne ou le logement dont vous dites « je vais être bien ici », ça s'appelle un coup de cœur, ben, il faut se jeter à l'eau.
Oui,
ça dépend. En fait, ça dépend vraiment des villes. Ouais, Paris, ça se vend en gros en deux heures. On sait très bien qu'il y a des gens qui rentrent dans
un
appart.
Non, mais on est d'accord. Ça se passe
direct,
parfois sans visiter.
Partout ailleurs, c'est pas quand même.
Du coup, est-ce que c'est vrai que dans les grosses agglos, dans Paris, peut-être à Bordeaux, j'en sais rien. Est-ce que c'est vrai qu'on négocie de moins en moins à la baisse Il paraît qu'on négocie même à la hausse.
À Paris,
vous êtes à 550, moi je vous donne 550 et vous me le donnez.
Si vous passez par agence, c'est interdit.
C'est pas possible.
C'est vraiment entre particuliers, mais par agence, c'est impossible.
En revanche, le coup de bluff qui consiste à dire je vais proposer 400 euros de moins au mètre carré, voilà, en général, à Paris, on perd. Mm-hmm. Tout le monde perd.
Les agences, et aujourd'hui il y a une grande différence avec il y a 10 ans, c'est que les prix de marché sont accessibles pour tout le monde. Donc un vendeur qui surestimerait son bien, il est vite démasqué par les acquéreurs. Dès l'instant où le bien est au prix du marché et vous l'avez vérifié, en ce moment c'est compliqué de négocier, sauf quand il y a un écart important. On mesure régulièrement chez Century 21 l'écart entre le prix de mandat et le prix de vente. C'est environ 4,5% en France, c'est moins de 3% dans Paris. Mmh. À la baisse.
Est-ce qu'on est toujours, notamment lorsque c'est le propriétaire qui met en vente, est-ce qu'on a une vérité des prix, en fait. Il y a aussi eu une période où tout le monde surévaluait. Alors en plus, comme on aime en général l'appartement, même celui qu'on laisse, on a tendance à surévaluer. Mais est-ce qu'on est un peu plus dans une vérité des prix lorsqu'on affiche
aujourd'hui, il y a plus de transparence parce que vous avez, avec Bercy en particulier, l'accès à la base de données de tous les biens qui ont été vendus et enregistrés par l'intérieur. Et puis il y a 1001 sites qui vous donnent les prix du marché. Donc c'est compliqué aujourd'hui de pas connaître les prix du marché. Mm-hmm. Vous pouvez aussi regarder sur Internet ce qu'il y a en vente et vous comparez 5, 10 ou 15 affaires et vous verrez bien ce qui dépasse les prix et ce qui est dedans.
En général, quand vous achetez, vous connaissez un peu le coin.
L'acheteur connaît mieux le vrai marché du vendeur.
Vous êtes rencardé auprès des amis et tout ça, vous savez à peu près combien ça doit se vendre. Donc,
deux témoignages pour terminer. C'est Alice qu'on n'a pas le temps de prendre. Je vais prendre sa question dans ma voix, qui dit: chez moi, il y a deux jeunes. Et effectivement, ils cherchent à acheter parce que pour eux, louer est impossible. C'est parfois plus difficile de convaincre un propriétaire, un bailleur, que de convaincre une banque. Et puis cet autre message qui nous vient de franceinter.fr, qui dit: mon fils vit depuis 10 ans à l'étranger, au Canada d'abord et puis en Belgique ensuite. Il a dû acheter lorsqu'il est arrivé à Amsterdam. Il était étranger en CDD de 4 ans sans import personnel. Il a acheté en 2 mois au taux normal. C'est donc peut-être un problème en France.
C'est pas forcément des taux fixes, c'est pas forcément aussi sécurisé, c'est pas forcément les mêmes marchés.
C'est
quand
pas en Belgique, Amsterdam.
D'abord été en Belgique, puis il a acheté à Amsterdam.
Vous avez en Belgique, le foncier n'est pas taxé, par exemple. Donc
c'est bien moins cher.
C'est très différent.
Dans Bruxelles, c'est moins 4 000 euros du mètre, contre 10 000 euros à Paris.
C'est pas tout à fait les mêmes marchés.
Allez, merci à tous. En tout cas, merci comme d'habitude pour vos nombreuses questions et portez-vous bien.